Trinville PM. La voix est libre.
Je ne suis pas une princesse, premièrement, ce n'est pas du tout dans ma nature. Moi, je suis une diplomate internationale et j'ai un appartement de fonction où il faut recevoir correctement. Et en plus, c'est aussi le lieu de résidence. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de loger son secrétaire général dans un appartement où il n'y a pas d'eau chaude.
Voici Luc Lavoie.
L'eau chaude.
Est-ce que ça va...
L'eau chaude.
Oui, ça va la suivre longtemps. C'est évidemment notre...
Vous pouvez compter sur nous. Pour
notre
que ça
Michael Jean préféré, ton ancienne gouverneure générale, Luc.
Mon ancienne collègue, non, ton ancienne collègue.
C'est vrai, mais elle était très sympathique
elle
et très gentille.
Elle était très sympathique, moi je l'ai
connue. Et c'était une bonne
époque.
Journaliste, ouais. Mais on dirait qu'une fois qu'elle a commencé à assumer ses hautes fonctions, je ne sais pas, on dirait que le prix de l'altitude, hein?
Mais moi, le propos que je veux t'amener aujourd'hui, c'est que d'une part, on ne peut pas loger comme ça un secrétaire général dans un appartement où il n'y a pas de...
L'eau chaude.
Non, mais...
Larry a été surpris.
Mais je voudrais dire aux gens la chose suivante.
En passant, on est en Facebook Live.
Moi, j'étais là, au cabinet du premier ministre, quand est née la francophonie, sous sa forme ultime, c'est-à-dire le sommet. Le premier avait eu lieu à Paris, le deuxième avait eu lieu à Québec. Et c'était à l'époque qu'une nouvelle organisation qui avait des objectifs extrêmement nobles. M. Mulroney avait été très, très impliqué dans sa création avec François Mitterrand. Et c'était une organisation vraiment où on essayait de dire qu'il existe sur la planète Terre un espace francophone.
Oui.
Il existe un francophone peut faire des échanges avec toutes sortes d'autres pays sur le plan académique. Il y a des échanges économiques qu'on pourrait développer davantage.
Culturel, voilà. Il y avait aussi un contrepoids au Commonwealth aussi, hein?
C'était un contrepoids au Commonwealth britannique. C'était dans cette optique-là que M. Mulroney a mis tant d'efforts. Et là, tu avais des objectifs très nobles dans le genre, peut-on s'assurer que la langue officielle du CIO, le Comité international olympique, parce que c'est toujours dans ses statuts, demeure le français.
Ben oui.
Et si vraiment on peut donner un coup de main, nous, de la francophonie, on voudrait, parce que c'est vrai aussi à l'Organisation des Nations Unies,
ben oui,
que le français est une des langues officielles. On voudrait pas que ça disparaisse du paysage. C'est vrai aussi que la Croix-Rouge, maintenant, on parle du International Red Cross beaucoup plus qu'on parle de la Croix-Rouge
même
internationale.
Même s'ils sont encore officiellement basés à Genève.
Basés à Genève et que leur langue officielle est le français. Il y avait toutes les questions d'enseignement. Il y a des professeurs d'ici qui sont allés enseigner dans des pays en développement, mais aussi dans des pays européens comme la Belgique, la Suisse, la France. Mmh. Il y avait TV5. TV5 est né des sommets de la francophonie.
Et c'est une très belle réussite, à mon sens, à moi, TV5. Je veux dire, on se promène dans le monde entier. Et souvent, le seul canal où, oui, on nous parle en français avec des très bons reportages, c'est TV5.
Malheureusement, la France a commencé à mettre moins de fric dans ça. Puis les gouvernements ici aussi. Et il y a une raison à ça, c'est que... Ben, il y a une raison à ça. Il y a plusieurs raisons à ça, mais revenons à l'Organisation internationale de la francophonie.
C'est ton mauvais coup, là, si
je
comprends
c'est
bien.
Clair,
ça s'en vient vers un
Moi, je trouve que Michael Jean, ce n'est qu'un symptôme d'une organisation qui est en train de s'autodétruire. Oublions tout ce que je viens de dire, là. Je vais vous nommer des pays membres. Des pays membres de la francophonie, là. Ils sont là parce qu'ils font partie de la francophonie.
Ouais.
L'Albanie.
Ah ben oui.
L'Arménie.
Ben oui, c'est sûr.
La Bulgarie.
Ben c'est sûr.
Chypre. L'Égypte, où il y a déjà eu une tradition française, mais où on dit qu'il reste à peu près 1% de parlants français, la Macédoine, la Grèce, la Moldavie, le Qatar, la Roumanie.
Le Qatar, hein?
Oui, le Qatar.
Le Qatar, c'est vrai qu'il y a une grosse communauté francophone.
Et là, on s'apprête il y aura un vote qui sera pris pour admettre l'Arabie Saoudite.
Écoute, l'Arabie Saoudite.
Les Émirats Arabes Unis.
Ils considèrent activement la possibilité d'intégrer l'Arabie Saoudite, de lui permettre d'adhérer, de devenir membre de la francophonie.
Absolument.
Ça n'a aucun bon sens.
Ça n'a aucun bon sens. Également, on va probablement donner le statut d'observateur qui est mitoyen là, à l'Irlande, à Malte, à la Serbie. Écoute,
d'ailleurs,
je veux dire, qui va prendre cette organisation-là au sérieux?
Mais c'est parce que c'est plus de la francophonie, là. C'est du n'importe quoi.
Ben, ça a plus aucune personnalité. Alors, qui veut... Tu sais, au début, tu as eu des secrétaires généraux dans le même poste que Mme Jean, celui qu'elle est sur le point de perdre, là.
Oui.
Tu as eu, bon, Jean-Louis Roy, un gars remarquable.
Bien sûr. Qui préside la Grande Bibliothèque,
c'est
d'ailleurs.
C'est ça. Ensuite, Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal, qui était un homme remarquable. C'était un chef d'État africain remarquable.
Un grand sage.
Là, après ça, ça a commencé à se détériorer.
Boutros Ghali.
Oui, mais j'allais dire Boutros Boutros-Ghali, c'est parce qu'il venait de se faire sacrer dehors des Nations Unies par une combinaison de tous les membres du Conseil de sécurité, parce que sous son règne, soudainement, on a cessé d'avoir des casques bleus, on envoyait des forces armées dans des conflits armés. Alors, c'est qu'à un moment donné, la France, l'Angleterre, les membres du Conseil de sécurité ont dit à Boutros Boutros-Ghali...
Ça va trop loin.
Ça suffit. Il a voulu résister, clac, ils l'ont mis à la porte. Et là, soudainement...
C'est-tu dans ce cas-là, je me demande si c'est pas Boutros Boutros-Ghali qui avait raison, Luc, là, parce qu'à un moment donné...
Non.
Moi, je vais dire des forces, des casques bleus, à un moment donné, qui empêchent des tueries. Je suis pas contre l'idée, moi.
Non, c'est parce que le problème, c'est qu'ils sont pas capables de faire ça. Parle-en à mes amis du Royal 22e Régiment qui ont été justement dans l'ex-Yougoslavie.
Mais je sais bien.
Écoute, ils sont venus de là avec le syndrome post-traumatique pire que nulle part ailleurs.
Srebrenica, là.
Srebrenica et toutes ces affaires-là.
Ouais,
tu peux pas mettre des casques bleus, des forces d'interposition quand il n'y a pas la moindre entente entre les deux pays belligérants.
Ouais.
En tout cas, Boutros Boutros-Ghali, revenons à lui, il se fait sacrer dehors, puis là, soudainement, c'était un homme qui avait une assez... Il se trouvait de son goût, Boutros Boutros-Ghali.
Ah oui,
c'était un copte égyptien, là, qui avait une... C'était un grand aristocrate, un grand homme. Paf! Il devient secrétaire général de la francophonie. C'est vrai qu'il parlait parfaitement français. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à être moins pris au sérieux. Parce que... En termes protocolaires, c'est bizarre, là, mais moi, j'ai fait dans le protocole à Ottawa pendant plusieurs années. En termes protocolaires à l'échelle internationale, le secrétaire général d'une organisation internationale reconnue, donc de la francophonie, ou du Commonwealth, ou l'Organisation des Nations Unies, a le rang protocolaire d'un chef d'État. C'est vrai, ça. C'est vrai, quand s'ils participent à une réunion, ils sont sur le même pied, dans la même photo qu'avec les chefs d'État. Boutros Boutros-Ghali, lui, s'est dit, « Merveilleux, ça, j'ai perdu l'ONU, mais... J'ai une autre fiole, tu sais, puis un appartement, puis il manque un peu de... De quoi manque-t-il déjà? Est-ce qu'on va l'avoir?
Le Chouda.
Ah, voilà, alors, Boutros Boutros-Ghali n'a pas pu régler le problème. Et là, le Canada, lui, il y avait Michaëlle Jean. Michaëlle Jean qui est une femme, comme tu as dit, qui était fort sympathique et tout, d'un bilinguisme parfait, gouverneur général. Mais la tradition canadienne, c'est qu'après que tu as été gouverneur général, à moins que tu ne le veuilles pas... On te nomme dans un poste d'ambassadeur à l'étranger. Ed Schreier, il a été ambassadeur en Australie. Avant lui, Roland Michener, il avait été ambassadeur au Portugal. C'est une tradition. Alors, Michaëlle Jean, là, il ne savait plus trop quoi faire avec. Là. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait?
Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sûrs de vouloir la nommer.
Parce qu'ils ont eu du trouble avec elle quand elle était gouverneur général.
Ah oui?
Ben oui. Écoute, la fois où elle a failli faire tomber le gouvernement de Harper, et je sais pas si tu sais que les conservateurs, ils s'en souviennent comme si c'était hier. Écoute, ben, là, il paraît que c'est une des scènes les plus surréalistes à s'être déroulée à Ottawa. Moi, je me souviens que j'étais à TVA comme invité sur un panel d'une émission spéciale sur, justement, il y avait eu la signature d'une entente entre Stéphane Dion... Jack Layton.
Puis le troisième, c'était...
Gilles Duceppe.
Voilà,
c'est ça.
C'est ça.
Et qui allait renverser le gouvernement, qui était effectivement minoritaire,
mais
qui avait été élu 5 semaines avant. Parce qu'il avait voulu, il avait annoncé dans son discours du trône qu'il allait retirer le financement public ou le réduire considérablement.
Pour les partis.
Il avait signé une espèce de papier.
Oui.
Puis là, Harper avait dit non. On proroge la Chambre. C'est-à-dire, bang, j'ai le droit, là, moi. J'ai dit au gouverneur général... La session qui a commencé la semaine passée, elle vient de finir, OK? Alors, Mme Jean était à l'extérieur du pays. Elle a donc contacté des sommités constitutionnelles, dont un vieux monsieur à la barbe blanche de Osgoode Hall à Toronto. Elle s'est fait conseiller, tu sais. Puis Harper, lui, on lui avait dit, c'est pas compliqué, monsieur le premier ministre, son greffier, il avait dit, tu te présentes à Rideau Hall, tu mets le papier en amandelle, elle signe, c'est terminé, là.
Non, c'est un rôle symbolique, là.
Alors, lui, il arrive là. Il y a toutes les caméras de télévision. Il entre dans le bureau de madame, et là, il voit les conseillers constitutionnels. Il dit, écoutez, monsieur le premier ministre, je pense qu'on va avoir une bonne discussion. Et Harper, qui était quelqu'un qui n'était pas connu pour avoir un caractère particulièrement facile, avait bondi. Il était accompagné d'une personne qui me l'a raconté. Furieux, il était venu rouge de colère. Il était sorti de là, puis il avait dit, écoute, ben, on a un plan B, là. Il avait pensé à un plan B parce qu'il y avait des rumeurs que Mme Jean allait faire des conneries.
Oui.
Le plan B, c'est qu'il y avait un avion Challenger du gouvernement sur la piste, puis il y avait quelqu'un qui partait directement à Londres, puis la reine Élisabeth allait signer parce que le premier ministre y avait parlé. Alors, je sais pas si tu sais, mais elle l'a fait niaiser pendant 3 heures de temps. Et elle, pendant ce temps, vous m'excuserez, mais je dois poursuivre quand même mes consultations. Alors, pourquoi ils n'ont pas offert de poste d'ambassadeur? Boy, je pense que cette lettre n'était pas capable de l'avoir en photo. Et là, arrive le moment, donc, que sa carrière, de son mandat de chef de l'État canadien, de princesse du gouvernement canadien, son mandat arrive à échéance. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec madame? Oh, on a-tu une chance? L'Organisation internationale de la francophonie, c'est fait pour elle, c'est sur mesure. Et là, ils mettent toute la machine diplomatique canadienne en arrière de ça, dont le vrai but, au fond de leur cœur, c'était qu'elle fasse de l'air, qu'elle soit plus dans nos plates-bandes, on veut plus la voir, on la déteste profondément. C'est ça, la réalité. Alors, là, on s'est retrouvé avec une dame qui a donc pris l'appartement de fonction de Boutros-Boutros-Ghali. Elle lui a ajouté un piano.
J'allais dire.
Ça prend un piano quand même, on reçoit, là, c'est pas rien. Et aussi, s'il peut m'entendre là comme il faut, je pense que quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte que Boutros-Boutros-Ghali prenait sa douche à l'eau froide, mais elle, ça lui prenait de quoi?
L'eau chaude.
Voilà, ça lui prenait de l'eau chaude. Alors...
on m'envoie l'information suivante. Tu t'amuses aujourd'hui, toi. L'arrivée de Michael Jean à titre de gouverneur général a coûté 1,3 million de dollars aux contribuables, soit jusqu'à 7 fois plus que toutes les autres personnes qui ont occupé ce poste au cours des 22 dernières années.
Ça, c'est pas, la dernière partie, je ne suis pas sûr, mais je sais que c'est vrai que Johnston, l'avant-dernier, celui qui était là avant Mme Payette,
ouais.
Avait coûté 225, je pense.
J'ai 233 000 ici.
233, puis l'autre était...
Michael Jean, 1,4 million. Adrian Clarkson, 470 000. Roméo Leblanc, 494 000. Julie Payette, l'actuelle, est rendue à 650 000. Surveiller. Petit clignotant
sauf
jaune.
Sauf que c'est la moitié moins que Mme
Mais c'est sûr.
Mais
c'est
elle,
sûr.
C'est qu'elle voulait s'assurer tout au long de ces cérémonies d'assermentation qu'elle ne manquerait pas de quoi?
D'eau chaude.
Okay. Alors, la francophonie, beau rêve, cause noble, belle institution qui a décidé de se faire harakiri. Qui va prendre ça au sérieux quand je t'ai nommé les pays dans la francophonie? Vous êtes qui, là, vous, l'Arabie saoudite? On vient ici en tant que membre de la francophonie. Ah bon? Que pouvez-vous me faire, je sais pas, un petit bout de poème de Verlaine ou les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Un Saoudien.
comme je disais ce matin à je sais plus qui, il y a quelques chameaux qui parlent français en Arabie Saoudite, mais à part de ça, là, on va s'arrêter, Luc, et au retour, tu vas nous donner. Alors, ça, c'était ton mauvais coup et ton bon coup de la journée. Ben, si vous voulez le connaître, restez avec nous.
Drainville PM. La voix est libre.
Pour certains, il faudrait tirer un trait sur notre mouvement comme si nous avions atteint la fin de notre vie utile. Non. L'histoire se poursuit.
Je le fais parce que je crois profondément à ma formation politique et que je suis un joueur d'équipe. Et je pense qu'on a à gagner ce que le Parti québécois demeure une force vive.
Voici Luc Lavoie.
Ben, si je comprends bien, Pascal Bérubé, le nouveau chef intérimaire du Parti québécois, est ton bon coup?
C'est mon bon coup. Je vois pas comment le Parti québécois aurait pu choisir quelqu'un de mieux dans les circonstances.
Toi, tu l'aimes vraiment beaucoup, Bérubé, là.
Moi, je trouve que c'est un excellent leader parlementaire. Je trouve que c'est un bon politicien. Et je trouve qu'une des façons de mesurer un bon politicien, surtout dans notre système à nous, c'est de voir comment ça va dans son comté. Pascal Bérubé, il a gagné avec 71% du vote, plus de 17 000 de majorité.
C'est incroyable.
Son plus proche poursuivant, c'était la CAQ à 11%. Alors, il y a quelque chose dans la façon de faire de la politique de Pascal Bérubé qui fonctionne.
Au bout.
On pourrait dire que c'est un winner. Ouais. J'ai jamais pensé à Pascal comme je le connais un peu, tu le connais sûrement encore mieux que moi. J'ai jamais pensé à lui comme un intello de la politique qui va nous construire de grandes thèses et des visions et des projets de société, mais comme opérateur politique qui représente avec fierté ses commettants de Matane, région que je connais pour y avoir travaillé et parce que c'est à 100 kilomètres de Rimouski.
Matane-Matapédia.
Puis j'avais bien connu, entre autres, parce que il me rappelle, ça va t'étonner la comparaison, là. Mais de 1968 à 1984, un certain Pierre Debanais, qui est un proche ami à moi, gagnait ce comté-là la première fois. Ça avait été serré en 68. Il avait vécu avec le syndrome du parachuté. Mais à partir de 1972, là, pas l'élection suivante, ça a commencé à monter. Puis à partir de 1974, Pierre allait chercher 82% du vote.
Du vote, hein?
Et l'autre.
J'ai connu, moi, de Banné aussi. Ouais. Pas comme toi, là, mais j'étais petit page à la Chambre des communes.
Et l'autre unité de mesure qui était renversante dans le Code de Banné, c'est qu'on venait de créer le concept au niveau fédéral du financement populaire. C'est-à-dire que on encourageait des dons de 20$, 10$, 5$, parce qu'autrefois, traditionnellement, c'était juste les grandes banques, les grandes industries, les grands cabinets
d'avocats. Les bagman ramassaient les grosses sommes.
Et Debanné avait décidé que c'était une façon de solidifier sa base. Dans tout le Canada, pendant toutes les années, à partir du moment où cette loi a été adoptée, Debanné était le premier. C'est lui qui ramassait le plus de fric dans un comté relativement pauvre. Matane-Matapédia, on n'est pas ici dans des zones industrialisées, riches. Alors, Pascal Bérubé, qui connaît Pierre Debanné, s'est inspiré de lui. Comment faire de l'activisme dans un comté comme ça? Comment être proche de la préoccupation, des préoccupations des gens?
Bérubé,
au-delà de son engagement face à l'indépendance, que je ne partage pas, au-delà de son engagement politique dans certaines politiques économiques, c'est un politicien d'un immense talent.
Moi, je vais dire, une de ses plus grandes forces, là, c'est sa capacité à lire le terrain.
Exactement.
À lire l'opinion, à savoir où les gens sont sur un enjeu ou sur un autre.
C'est vrai.
Le nombre de fois, moi, que je l'ai entendu dans un caucus, là, se lever, prendre la parole, puis dire, là, faites attention, là. Tout le monde s'enligne, là, sur cette ligne-là, là. Vous avez l'air de penser que c'est vers ça qu'il faut aller ou c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Mais moi, là, je nous mets en garde. Les Québécois, c'est pas là qu'ils sont. Ils sont ailleurs. Voici où ils sont. Et puis là, puis évidemment, garde Luc, la raison pour laquelle il va chercher 71% du vote, c'est parce qu'il est très, très proche de son monde.
Très proche.
Et moi, je vais te dire, là, Bérubé, c'est hallucinant. L'Assemblée nationale, là, d'abord, ses appareils électroniques sont toujours allumés.
Oui.
Toujours. Et là, dès qu'il voit une nouvelle passer, mon gars, concernant son comté, écoute, c'est pas long. Le tweet part, le téléphone va sonner chez la personne qui s'occupe de, tu sais, le directeur de l'hôpital ou je sais pas quoi.
Puis la station de radio locale va recevoir une offre.
Je suis prêt à réagir.
Il est tout le temps.
Il est hallucinant.
Mais
hallucinant.
C'est loin, les distances sont immenses. Il va constamment dans son comté.
Oui.
C'est un gars qui a la politique dans le sang.
Oui.
Il est exactement comme tu dis, la lecture du terrain. Je pense que celui qui avait ce même nez pour la lecture du terrain, que j'ai appris à connaître en travaillant avec lui, c'est Mario Dumont.
Oui.
Mario, quand tu y parles, tu lui dis ça va où?
Ouais.
Il sait, il sent.
Tu as raison.
Il y a des gens qui l'ont.
Qui l'avait bien aussi, c'est un gars comme François Gendron pouvait faire une bonne lecture du terrain aussi.
Pas pour rien
qu'il a fait 10 mandats d'affilée. Mais je te pose la question, Bérubé, bon, très bien, il va être chef intérimaire. Tu le trouves tellement bon, j'ai le goût de te demander. T'aurais pas souhaité qu'il attende un peu puis qu'il se présente pour la grande course? Parce que là, on a compris que Véronique Yvon et Sylvain Gaudreau vont se lancer dans la grande course pour être chef du PQ pour la prochaine élection, là, parce qu'on se répète, mais Bérubé, c'est de façon intérimaire, là.
Oui, tout à fait. En principe, ça veut dire qu'il ne sera pas dans la grande course.
Exact.
Et écoute, je vais être prudent dans mes propos, parce que j'aime bien Pascal. Je ne pense pas que toutes les qualités que je viens de défiler à son sujet sont celles qu'on attend d'un chef permanent. C'est un bon numéro 2 qui sera, mais c'est pas rien être un bon numéro 2. Il y a eu quelques-uns des grands politiciens de notre histoire étaient des numéros 2 qui justement faisaient arriver des choses et où tu avais un leader qui était plus là pour donner la grande direction.
Tu penses à qui, par exemple?
Ben, Ottawa, Mulroney, Mazankowski, c'était une combinaison gagnante.
Mazankowski, tu as raison.
Il y en a eu d'autres. On peut penser à René Lévesque et Jacques Parizeau dans les débuts du gouvernement du Parti québécois.
Ou même René Lévesque, Jean Lesage.
René Lévesque, Jean Lesage, c'est un très bel exemple.
L'élection de 1962 sur la nationalisation de l'hydroélectricité, c'est parce que René Lévesque réussit à convaincre Jean Lesage d'aller de l'avant avec l'élection référendaire. Sur la nationalisation.
Il faut que les gens se souviennent. En 1962, il était majoritaire. Il n'avait pas allé en élection.
Non, c'est ça.
C'était un immense pari.
Vraiment.
Alors, être un très solide numéro 2, c'est être un grand politicien aussi.
Oui, tu as raison.
Et là-dessus, moi, je ne le vois pas comme chef. Peut-être, malgré que le dernier que je mentionnerais Jean Chrétien, à sa façon, avait le nez pour ce qui se passait sur le terrain.
Très bon parallèle aussi.
Et ça avait été un numéro 2, puis on avait douté de ses capacités à être numéro 1, mais disons qu'une fois élu, il a fait un bon bout. Hein?
Puis il a gagné 3 élections d'affilée, rappelons-nous-le.
Toute majoritaire.
Très bien. Luc, ben merci. On n'a pas pris d'appel aujourd'hui, ça arrive des fois. On va se reprendre demain. À demain, justement.
Salut.
Salut. Et au retour, on va parler de ce projet d'amener une équipe de basket de la NBA à Montréal. Michael Fortier est l'un des promoteurs. Il va nous parler après la pause. Puis peut-être que j'aurai quelques minutes pour vous demander votre avis. Ça vous tente-tu qu'il y ait une équipe de basket professionnel, là? Est-ce que vous seriez prêt à acheter des billets pour aller voir des matchs des, je sais pas comment ils s'appelleraient, de Montréal?